Qu'entend-on par éco-services et pourquoi ces éco-services sont-ils de plus en plus souvent au centre des débats sur les changements climatiques ? Le département d'État présente ci-après le quatrième volet d'une série d'audiodiffusions sur la formation de partenariats entre les États-Unis et l'Afrique relatifs à l'environnement. Notre invité est de nouveau aujourd'hui John Flynn, directeur du programme de l'environnement pour l'Afrique centrale à l'Agence des États-Unis pour le développement international, l'USAID. Les éco-services, dit-il, sont des fonctions écologiques que les organismes de la nature et les écosystèmes accomplissent les uns pour les autres, tels la photosynthèse, la production d'oxygène, la purification de l'eau, et dont bénéficient leur communauté immédiate humaine ou environnementale, et l'écosphère en général, d'où le terme de « service ». Ces éco-services sont un concept que l'on étudie beaucoup de nos jours, dans le cadre des mesures à prendre face au changement climatique, et qui pourrait se révéler très utile. Il est fondé sur la notion que les interactions naturelles dans les écosystèmes jouent un rôle nécessaire à la survie à la fois de l'homme et de la planète en général. Parmi ces interactions ou services, on peut noter la filtration de l'eau par les plantes qui la purifient, le rôle des zones humides qui constituent des pépinières aquatiques et des crèches d'oiseaux, et le rôle des oiseaux et des insectes dans la pollinisation des champs agricoles et des plantes de toutes sortes. Les dernières innovations dans la politique de conservation environnementale visent à mettre au point des cadres financiers relatifs à ces écoservices. Aux États-Unis, par exemple, un dispositif de financement a été mis en vigueur pour fournir des fonds aux agriculteurs qui cultivent leurs terres de manière à prévenir les décharges chimiques et l'érosion du sol qui finissent par polluer les rivières locales. Ces mesures d'incitation financière figurent parmi les principes actuellement à l'étude dans les négociations internationales sur les mesures à adopter face au changement climatique. Et ces mesures joueront un rôle important dans l'aboutissement de ces négociations dans le courant de l'année. Aujourd'hui, dans la quatrième partie de son entretien avec nous, John Flynn se penchera surtout sur les écoservices, notamment l'écotourisme, et le rôle qu'il joue dans les initiatives de conservation des forêts tropicales humides de l'Afrique centrale. Voici M. John Flynn.
Environmental services means many things to different people. Typically, it means, I think, generally now.
La définition de ces services environnementaux ne semble pas être la même pour tout le monde. Mais je pense qu'en général, il s'agit de savoir comment rembourser la nature pour ses services d'une manière ou d'une autre. Les nombreuses fonctions écologiques des forêts constituent en fait des services rendus aux gens et à l'équilibre de l'écosystème mondial, que l'on ait à payer ces services ou non. C'est une locomotive incroyable des interactions nécessaires à la vie. Le cycle hydrologique, le cycle du carbone, la photosynthèse, tous ces éléments entrent en jeu dans le processus extrêmement complexe de la nature en général et que nous ne comprenons pas très bien encore. Il ne faut pas nous leurrer à ce sujet, je crois. De même que la communauté scientifique n'est pas assez familière avec l'écologie des forêts tropicales humides pour décider que l'on peut déboiser ou faire ceci ou cela. Nos connaissances ne seront jamais parfaites. Alors nous devons essayer d'agir avec précaution et de continuer à apprendre tout ce que nous pouvons au fil du temps. Et ce concept des écoservices est un élément essentiel à la durabilité du but que nous cherchons à atteindre. En ce moment, nous pensons que 3 ou 4 de ces principaux services environnementaux pourraient éventuellement devenir rentables. Et l'écotourisme est l'un de ces services que nous étudions depuis probablement le plus longtemps. L'écotourisme est une sorte de service environnemental qui ne consomme pas de ressources s'il est géré de manière appropriée. Autrement dit, il ne cause pas de dégâts aux ressources sur lesquelles il est fondé. Je dois néanmoins souligner que cela serait faux dans les cas où l'écotourisme serait entrepris de manière inconsciente. Dans les écosystèmes fragiles, comme dans les îles Galapagos et ailleurs, en faisant de l'écotourisme, vous entraînez des dégâts à l'endroit même que vous êtes allé visiter. Les forêts tropicales ont l'air solides, mais sont en fait très fragiles. La faune n'y est pas aussi abondante que dans les prairies. Il n'y a pas de migration ou de population animale importante. Et vous ne voyez pas d'animaux parce que ces forêts sont très denses. Je traversais récemment une forêt en suivant une piste d'éléphants, parce que c'est le seul moyen vraiment de pouvoir le faire, et tout d'un coup, j'ai été attaqué par un gorille de mâle, un dos argenté. Et je peux vous dire qu'il y a peu de chances de voir quelque chose d'aussi effrayant. Il était à 10 mètres de moi, et je ne m'étais pas rendu compte de sa présence. Sans le savoir, je m'étais trop approché de lui, et cela ne lui avait pas plu. Mais ce sont des choses qui arrivent. Malgré leur riche végétation, les forêts tropicales humides ne produisent pas grand-chose. On voit l'exubérance du sol, l'eau et toute cette verdure, et on pense que ces forêts donneraient des quantités énormes de fruits. Mais en fait, elles sont surtout utiles à l'écologie de par leur nature même, c'est-à-dire par la densité de leurs arbres. Les régions boisées ne favorisent pas l'agriculture. Le sol n'est pas très riche, les parasites ravageurs sont très nombreux et il y a beaucoup d'autres problèmes. Donc, le déboisement n'apporte pas grand-chose aux populations, mais fragmente ces forêts et diminue leur rôle bénéfique à l'écologie. Notre tâche consiste, entre autres, à tenter de prévenir ce déboisement néfaste. En République démocratique du Congo, les troubles ont contraint beaucoup de gens à fuir leur foyer. Ils ont commencé à se cacher dans les forêts, allant de plus en plus à l'intérieur de celles-ci pour se protéger contre les attaques des miliciens et des autres bandits armés. Dans leur village, les agriculteurs pratiquent la jachère qui permet au sol de se reposer, de se régénérer. C'est la tradition. Mais avec la croissance démographique qui se poursuit, ces périodes de jachère sont moins longues, sinon absentes, et la productivité du sol diminue à un tel point que les habitants doivent quitter la région pour trouver d'autres terres arables. Alors ces villages ne sont plus forcément stables de nos jours. Nous voulons tenter de trouver le moyen d'encourager les populations locales à rester dans une région particulière, sur leurs propres terres, où la durabilité de l'agriculture peut être améliorée, ce qui permettrait, par conséquent, de prévenir le déboisement causé par la migration de ces populations. Nous cherchons aussi à encourager les gens à ne pas aller dans l'arrière-pays pour établir des exploitations agricoles dans ces régions reculées. Cela aussi entraîne la fragmentation des écosystèmes naturels et a des conséquences graves pour la faune sauvage, notamment les espèces comme les éléphants, qui ont besoin de grandes étendues pour survivre. Nous pensons que le tourisme, s'il est correctement entrepris, peut apporter des revenus à la population locale. Et une partie de ces revenus permettra de gérer et de protéger les ressources de ces régions qui sont particulièrement sensibles à la dégradation environnementale, comme nos recherches l'indiquent. Nous avons plusieurs centres d'écotourisme qui ont donné de très bons résultats. Le tourisme centré autour des gorilles des montagnes dans l'est de la RDC, en Ouganda et au Rwanda, est devenu maintenant un secteur très rentable, qui a créé de l'emploi pour la population locale et des revenus importants. Cela est davantage le cas du Rwanda et de l'Ouganda, qui ont développé ce secteur plus que ne l'a fait la RDC, mais celle-ci est prête à capitaliser sur ce tourisme. Dans une autre partie de la sous-région, en République centrafricaine, il y a une grande clairière qu'on appelle Baï, en langue locale. Dans les forêts, on trouve certaines clairières marécageuses, dont on vient seulement de découvrir l'importance écologique, notamment pour la population animale dans ces endroits. Les scientifiques ont signalé la présence de 5000 éléphants dans ces clairières qui semblent très importantes pour leur survie. À n'importe quel moment, vous pouvez voir de 30 à 50 éléphants dans cet endroit. Ils viennent, a-t-on appris, pour se nourrir des sels dans le sol, pour avoir des contacts avec le reste du troupeau. C'est une région très propice au tourisme, parce qu'on y a beaucoup d'animaux que vous pouvez observer à tout moment. Nous sommes en train d'établir des centres semblables dans les endroits qui, pense-t-on, offrent de bonnes possibilités de tourisme. Cette audiodiffusion est réalisée par le Bureau des programmes d'information internationale du Département d'État américain. Le contenu d'autres sites auxquels elle pourrait se référer n'engage que leurs auteurs et ne reflète pas nécessairement le point de vue du gouvernement des États-Unis.